Bonjour à toutes et à tous, je suis René-Jean Coquin, docteur en sciences humaines et sociales, professeur agrégé d'éducation physique et sportive, sociologue du sport et fondateur des éditions Moon Caraïbes. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour d'une question qui traverse depuis plus d'un siècle les mondes du sport, de l'école et de l'éducation. Le sport peut-il encore éduquer ? Cette question mérite d'être posée avec précision. Car le sport occupe aujourd'hui une place paradoxale dans nos sociétés. Jamais il n'a été aussi visible. Jamais il n'a représenté un tel enjeu économique, médiatique et culturel. Il rassemble des millions de personnes autour de compétitions devenues des événements mondiaux. Il produit des héros. Il construit des imaginaires collectifs. Il influence notre rapport au corps, à la réussite et au dépassement de soi. Mais dans le même temps, une interrogation fondamentale demeure. Le sport est-il encore un espace de formation de l'être humain ou est-il progressivement devenu un espace dominé par la performance, la sélection et la recherche du résultat? Autrement dit, le sport forme-t-il encore des citoyens ou forme-t-il principalement des compétiteurs? Cette question est essentielle parce que le sport n'est jamais seulement une activité physique. Il est une institution sociale, il transmet des normes, il produit des comportements, il organise des relations entre les individus, il enseigne une certaine manière d'être au monde. C'est précisément ce que les sciences sociales du sport ont cherché à comprendre. Le sport est un laboratoire de la société. Il révèle nos conceptions de l'effort, de la réussite, de l'autorité, de la coopération et de la place du corps. Il montre également nos contradictions, car le sport peut être simultanément un formidable outil d'émancipation et un espace où se reproduisent certaines inégalités. Il peut apprendre le respect des règles tout en étant marqué par des violences. Il peut favoriser la rencontre entre les individus tout en reproduisant des mécanismes d'exclusion. Il peut construire l'estime de soi tout en exposant certains individus à une forte pression de réussite. C'est pourquoi il est nécessaire d'abandonner une idée trop souvent répandue. Le sport ne possède pas une vertu éducative automatique. Le sport n'éduque pas simplement parce qu'il existe. Il éduque lorsqu'une société lui attribue une finalité humaine. Lorsqu'un éducateur, un enseignant ou un entraîneur transforme une pratique corporelle en expérience de formation. Cette distinction est fondamentale. Elle rejoint la pensée de Pierre de Coubertin, qui voyait dans le sport moderne un moyen d'éducation morale. Pour Coubertin, la pratique sportive ne devait pas seulement produire des performances. Elle devait contribuer à former un individu capable de maîtriser ses comportements, d'accepter les règles communes et de développer une relation équilibrée avec les autres. Mais l'histoire du sport moderne nous oblige également à regarder les limites de cet idéal, car le sport est traversé par une tension permanente. D'un côté, il porte une promesse éducative, de l'autre, il est soumis aux logiques de compétition, de classement et de performance. Cette tension est devenue particulièrement visible dans le sport contemporain. Le champion est devenu une figure médiatique. La performance est mesurée, enregistrée, comparée en permanence. Les jeunes sportifs peuvent être confrontés très tôt à des exigences élevées. La victoire devient parfois plus importante que le processus d'apprentissage. Or, une véritable éducation ne consiste pas seulement à apprendre à gagner, elle consiste aussi à apprendre à perdre, à accepter la frustration, à comprendre ses erreurs, à progresser, à reconnaître l'autre comme un partenaire de construction. C'est ici que l'analyse de Norbert Elias et Eric Dunning devient particulièrement intéressante. Dans leurs travaux sur le sport et la civilisation des comportements, ils montrent que les pratiques sportives modernes participent à un long processus d'apprentissage social. Le sport impose progressivement un cadre où les individus doivent contrôler leurs émotions, respecter des règles communes et transformer une opposition physique potentiellement violente en confrontation organisée. Le match sportif devient alors une forme particulière de régulation sociale. L'adversaire n'est pas un ennemi. Il est celui grâce auquel le jeu existe. L'arbitre n'est pas seulement celui qui sanctionne. Il représente une règle commune acceptée par tous. Cette dimension est profondément éducative. Elle apprend une idée essentielle pour toute société démocratique. La liberté ne signifie pas l'absence de règles. Elle suppose au contraire la capacité à vivre avec des règles partagées. Mais cette fonction éducative du sport n'est jamais garantie. Car les règles sportives peuvent aussi être utilisées dans des logiques de sélection et de hiérarchisation. Le sociologue Pierre Bourdieu a montré que les pratiques sportives ne sont jamais indépendantes des appartenances sociales. Dans ses analyses sur les goûts, les pratiques culturelles et les styles de vie, il montre que les individus n'entrent pas tous dans les mêmes pratiques sportives avec les mêmes ressources. Le sport peut donc être un espace d'intégration, mais il peut aussi révéler les différences sociales, l'accès aux équipements, le coût des pratiques, la disponibilité des infrastructures, les modèles familiaux, les représentations culturelles du corps. Tous ces éléments influencent les trajectoires sportives. Cette analyse est particulièrement importante lorsqu'on observe les territoires ultramarins. Dans les sociétés antillaises, le sport possède une dimension sociale et identitaire particulière. Il représente souvent un espace de reconnaissance, un lieu où des individus peuvent construire une image positive d'eux-mêmes, un moyen d'affirmation collective. Mais il s'inscrit aussi dans une histoire longue du corps, une histoire marquée par l'esclavage, la colonisation, les pratiques populaires et les résistances culturelles. Le corps sportif antillais ne peut donc pas être compris uniquement à travers la performance. Il doit être replacé dans une histoire sociale. C'est ce que montrent également les travaux sur les pratiques corporelles. Dans son texte fondateur « Les techniques du corps », publié en 1936, Marcel Mauss explique que les manières d'utiliser son corps sont des apprentissages sociaux. Courir, nager, marcher, combattre, danser, toutes ces actions semblent naturelles. Mais elles sont en réalité transmises par des cultures. Le corps n'est donc jamais seulement biologique. Il est aussi social. Il est porteur d'une mémoire, d'une éducation, d'une histoire. Le sport devient alors un lieu privilégié pour observer cette relation entre corps et société. Quand un enfant apprend un geste sportif, il n'apprend pas uniquement une technique. Il apprend une relation aux autres, une manière de gérer son énergie, une manière d'accepter une règle, une manière de construire sa confiance. Il apprend progressivement à devenir un sujet capable d'agir avec les autres. C'est précisément pourquoi le sport reste une question éducative majeure. Non pas parce qu'il serait naturellement vertueux, mais parce qu'il met en jeu des apprentissages fondamentaux. La relation à soi-même, la relation aux autres, la relation aux règles et la capacité à construire un avenir collectif. Mais si le sport peut constituer un espace d'apprentissage, une question demeure. Que transmet-il réellement aux individus qui le pratiquent ? Car apprendre une technique sportive ne signifie pas encore apprendre à vivre avec les autres. Maîtriser un geste, courir plus vite, sauter plus haut, être plus performant. Ces apprentissages appartiennent à la dimension technique du sport, mais l'éducation sportive se joue ailleurs. Elle se joue dans la relation aux autres, dans la capacité à accepter une règle commune, dans la manière de gérer un conflit, dans l'acceptation de la différence, dans la construction progressive d'une autonomie. Autrement dit, la véritable question n'est pas seulement « que fait le sport au corps ?» elle est aussi « que fait le sport à l'individu et à son rapport au monde ?» C'est ici que la fonction éducative du sport prend toute son importance, car une société ne transmet pas seulement des connaissances. Elle transmet des manières d'être, des comportements, des valeurs, des façons d'occuper une place parmi les autres. Le sport devient alors un espace particulier de socialisation, un lieu où les jeunes expérimentent concrètement ce que signifie appartenir à un collectif. Mais cette transmission ne se fait jamais automatiquement. Elle dépend de ceux qui accompagnent la pratique. Des enseignants, des éducateurs, des entraîneurs, des institutions, car derrière chaque activité sportive se trouve toujours un projet éducatif explicite ou implicite. La question devient donc essentielle. Quel modèle humain voulons-nous construire à travers le sport? Est-ce un individu uniquement capable de performer? Ou un individu capable de coopérer, de respecter, de réfléchir et de prendre sa place dans la société? C'est cette dimension que nous allons maintenant explorer. L'un des grands enjeux du sport éducatif réside donc dans sa capacité à transformer une opposition en apprentissage collectif. Car toute pratique sportive repose sur une situation particulière. Des individus se confrontent, mais cette confrontation doit rester organisée par des règles communes. C'est cette dimension qui fait du sport un espace éducatif original. Dans une société, les individus ne vivent jamais seuls. Ils doivent apprendre à composer avec les autres. Ils doivent accepter des limites. Ils doivent comprendre que leur liberté existe toujours dans un espace partagé. Le sport constitue alors une expérience concrète de cette réalité sociale. Sur un terrain, dans une salle ou dans un espace de pratique, chacun découvre rapidement que ses actions ont des conséquences. Une décision individuelle peut aider ou fragiliser un collectif. Un comportement excessif peut déséquilibrer un groupe. Une absence de respect peut empêcher le jeu lui-même d'exister. Le sport apprend donc une forme de responsabilité. Cette idée rejoint les analyses du sociologue allemand Norbert Elias. Pour Elias, les sociétés humaines se construisent progressivement autour d'un apprentissage du contrôle des comportements. Le sport moderne participe à ce processus en proposant un cadre où les émotions doivent être maîtrisées. La colère existe, la frustration existe, la volonté de gagner existe. Mais ces émotions doivent être transformées pour permettre la poursuite du jeu. C'est un apprentissage fondamental. L'enfant ou l'adolescent apprend progressivement qu'il ne peut pas toujours imposer immédiatement son désir. Il doit attendre, il doit écouter, il doit accepter une décision extérieure. Il doit reconnaître l'existence d'une règle commune. Cette expérience est particulièrement importante dans une période où les institutions éducatives rencontrent des difficultés nouvelles. L'école, les familles et les structures associatives sont confrontées à une évolution du rapport des jeunes à l'autorité. Cela ne signifie pas que les jeunes seraient naturellement plus violents ou moins respectueux qu'autrefois. Cette vision serait trop simplificatrice. Mais cela signifie que les formes traditionnelles de transmission de l'autorité sont questionnées. Les jeunes grandissent dans un environnement marqué par de profondes transformations. L'omniprésence des réseaux sociaux, la rapidité de circulation des informations, la multiplication des modèles de réussite, la transformation des rapports familiaux et parfois l'affaiblissement de certains espaces collectifs de socialisation. Dans ce contexte, le sport peut constituer un espace où les règles reprennent une signification concrète. Une règle sportive n'est pas seulement une interdiction. Elle donne une possibilité d'action. Elle permet au jeu d'exister. Elle protège les participants. Elle crée un cadre commun. Cette approche rejoint les réflexions du pédagogue Philippe Mérieux sur l'éducation. Pour Mérieux, éduquer ne consiste pas simplement à transmettre des connaissances. Il s'agit d'accompagner un individu dans la construction progressive de son autonomie. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir l'obéissance. L'objectif est de permettre à chacun de comprendre le sens des règles et de devenir capable d'agir avec responsabilité. Le sport peut jouer ce rôle lorsqu'il est pensé comme un espace éducatif. Mais cela suppose une présence essentielle, celle de l'éducateur. Car un ballon, un terrain ou une compétition ne produisent pas automatiquement des apprentissages humains. Ce sont les adultes qui donnent un sens à l'expérience. L'entraîneur, l'enseignant de PS ou l'éducateur sportif ne transmettent pas seulement une technique. Ils transmettent une manière d'être avec les autres. Ils montrent comment gérer une victoire. Comment accepter une défaite? Comment respecter un adversaire? Comment progresser sans humilier? Comment rechercher l'excellence sans détruire l'autre? C'est ici que la dimension humaine de l'encadrement devient essentiel. Un même sport peut produire des effets totalement différents selon le projet qui l'accompagne. Dans un contexte éducatif, la compétition peut devenir un apprentissage. Elle apprend à se dépasser, à mesurer ses progrès, à reconnaître le travail nécessaire pour réussir. Mais dans un contexte uniquement centré sur le résultat, elle peut aussi produire une pression excessive. Elle peut transformer l'adversaire en ennemi. Elle peut donner l'impression que seuls les meilleurs méritent la reconnaissance. C'est pourquoi il faut distinguer deux logiques. La première est celle du sport comme formation. La seconde est celle du sport comme simple sélection. Cette distinction est particulièrement importante pour les jeunes, car l'adolescence est une période où l'identité se construit. Le regard des autres devient essentiel. La réussite ou l'échec sportif peuvent avoir un impact important sur la confiance en soi. Un jeune qui progresse dans une pratique sportive peut découvrir des capacités qu'il ignorait. Il peut développer une image positive de lui-même. Il peut trouver une place dans un collectif. Mais un jeune qui ne correspond pas aux normes de performance peut aussi ressentir un sentiment d'exclusion. Cela pose une question fondamentale. Le sport que nous proposons aux jeunes permet-il à chacun de trouver une place ? Ou sélectionne-t-il seulement ceux qui correspondent déjà aux attentes du système ? Cette interrogation rejoint les travaux de Pierre Bourdieu sur les pratiques sociales. Les activités sportives ne sont jamais totalement indépendantes des conditions sociales. Les ressources économiques, culturelles et familiales influencent les possibilités d'accès au sport. Certains jeunes bénéficient d'un environnement favorable. D'autres rencontrent davantage d'obstacles. Le rôle éducatif du sport consiste donc aussi à lutter contre ces inégalités, permettre à chacun d'accéder à une pratique, valoriser différentes formes de réussite, reconnaître différentes manières d'être compétent. Cette question prend une dimension particulière dans les territoires antillais. Dans les sociétés caribéennes, le sport représente souvent beaucoup plus qu'une activité de loisir. Il peut être un espace de reconnaissance sociale, un lieu où des jeunes construisent une confiance en eux-mêmes, un moyen de représenter leur territoire au-delà des frontières. Mais il faut également interroger les modèles transmis. Quel corps valorisons-nous ? Quel parcours considérons-nous comme des réussites ? Quelles pratiques sportives reconnaissons-nous comme légitimes ? Ces questions rejoignent mes propres recherches sur les pratiques corporelles traditionnelle antillaise. Car avant l'organisation institutionnelle du sport moderne, certaines pratiques populaires constituaient déjà de véritables espaces d'apprentissage. Elles transmettaient des règles, elles construisaient des relations sociales, elles formaient les corps, elles créaient du lien entre les générations. Elles montrent que l'éducation par le corps ne commence pas avec le sport moderne. Elle existe dans toutes les sociétés humaines. Le véritable enjeu aujourd'hui est donc peut-être moins de savoir si le sport peut encore éduquer. La question est plutôt, quel projet éducatif voulons-nous donner au sport ? Mais après avoir analysé les possibilités éducatives du sport, une question essentielle demeure. Le sport peut-il réellement répondre seul aux défis éducatifs de notre époque ? La réponse doit être nuancée. Le sport possède un potentiel éducatif considérable. Il peut apprendre la règle, il peut développer la coopération, il peut renforcer la confiance en soi, il peut créer du lien social. Mais il ne peut pas à lui seul réparer toutes les fragilités d'une société, car les difficultés rencontrées par les jeunes ne naissent jamais uniquement sur un terrain de sport. Elles sont liées à des transformations plus larges. La famille, l'école, les inégalités sociales, les évolutions culturelles, le rapport à l'autorité, la place du numérique et les nouvelles manières d'être ensemble. Le sport est donc un outil puissant, mais un outil qui dépend toujours du projet humain qui l'accompagne. La véritable question n'est donc plus seulement « le sport peut-il encore éduquer ?» Elle devient « quelle éducation voulons-nous construire à travers le sport ?» Pour conclure, le sport peut encore éduquer. Mais il ne le fait pas automatiquement. Il éduque lorsque nous lui donnons un sens, lorsque nous refusons de réduire la pratique sportive à la seule recherche de performance. Lorsque nous considérons chaque jeune non pas uniquement comme un futur champion, mais comme une personne en construction. Car derrière chaque geste sportif se joue une question plus profonde. Quel individu voulons-nous former ? Un individu capable de gagner uniquement ou un individu capable de comprendre, de coopérer, de respecter et de participer à la vie collective ? C'est ici que la dimension éducative du sport prend toute son importance. Le sport apprend que la réussite n'est jamais seulement individuelle. Même dans une performance personnelle, il existe toujours des rencontres, des transmissions, des accompagnements. Un entraîneur, un enseignant, une équipe, une communauté, des personnes qui ont contribué à construire un parcours. Le sport rappelle ainsi une idée essentielle. L'être humain ne se construit jamais seul. Cette réflexion prend une résonance particulière dans les sociétés antillaises. Car le sport y représente souvent un espace de reconnaissance, de fierté collective et d'affirmation identitaire. Il révèle des trajectoires individuelles remarquables, mais il témoigne aussi d'une histoire sociale particulière, où le corps a longtemps été au centre des rapports de domination, de travail et de résistance. Comprendre le sport dans ces territoires, c'est donc comprendre comment les individus transforment leur corps en espace d'expression, de réussite et de construction de soi. C'est aussi reconnaître que certaines pratiques corporelles populaires ont toujours possédé une dimension éducative. Avant même l'institution sportive moderne, les communautés transmettaient déjà des règles, des savoirs, des valeurs et des manières d'être ensemble. Le jeu, la confrontation maîtrisée, la coopération et la transmission entre générations constituaient déjà des formes d'éducation. Aujourd'hui encore, face aux interrogations sur la violence des jeunes, la perte de repères ou la crise du lien social, le sport peut représenter un espace précieux. Mais à une condition, ne jamais oublier que le sport n'est pas une fin en soi. Il est un moyen de construire des individus plus autonomes, un moyen de développer une intelligence du corps, un moyen d'apprendre à vivre avec les autres, un moyen de transformer l'énergie individuelle en projet collectif. Au fond, la véritable valeur éducative du sport ne se mesure pas seulement au nombre de médailles remportées. Elle se mesure à ce qu'il laisse chez ceux qui le pratiquent. La confiance acquise, la capacité à respecter, la force de persévérer, la compréhension de l'autre, la capacité à devenir acteur de sa propre vie. C'est peut-être cela la plus grande fonction éducative du sport, non pas fabriquer uniquement des champions, mais contribuer à former des êtres humains capables de construire une société plus juste et plus solidaire. Je suis René-Jean Coquin, docteur en sciences humaines et sociales, sociologue du sport et fondateur des éditions Moon Caraïbes. Ce podcast s'inscrit dans une réflexion plus large consacrée aux relations entre sport, corps, société et éducation. À travers cette série, une conviction guide mon travail. Le sport n'est jamais seulement un mouvement du corps. Il est aussi un mouvement de la pensée, une manière d'apprendre le monde et une manière de construire l'avenir. Merci de votre écoute.